Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo. Comme chaque vendredi de 18h à 19h, en direct sur micro-rebelle.fr. Petit rappel, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, et sinon à nous solliciter pour nous proposer des idées de reportage, des idées d'alternatives, des idées d'enquête, des idées d'échange et de débat, en nous écrivant à contact@micro-rebelle.fr. Je vous rappelle que notre émission Micro Rebelle Hebdo est rediffusée par nos amis de la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France. C'est notamment le cas de Radio PFM à 99.9 à Arras, qui nous rediffuse le vendredi à 20h, le samedi à 7h30 et le dimanche à 14h. Et c'est également le cas de Radio Plus 104.3 à Douvrin, chaque mardi à 12h. À la technique, c'est Luc. Bonsoir Luc.
Salut Lucien, bonsoir à toutes et à tous.
Comme toujours, notre programme sera composé d'annonces, agenda social, culturel, d'échanges autour de l'actualité et de reportages divers et variés. Aujourd'hui, on va vous proposer notamment deux reportages tout à fait pertinents, tout à fait dans le cadre de l'actualité. On vous les présentera tout à l'heure. Et on va sans attendre commencer par notre agenda social et culturel pour la semaine à venir. Eh bien, la semaine à venir, ça commence le samedi 5 octobre et c'est CLIS 21, la coopérative informatique, qui s'associe avec le groupe d'utilisateurs Linux Stinux et l'association Mycelium, dont l'objet c'est la diffusion d'Internet d'une manière associative, autrement dit sans passer par les Orange, les Bouygues, les SFR, etc., etc. Donc un projet tout à fait autogéré, tout à fait sympathique pour sortir Internet de la marchandisation. Et bien donc ces trois organisations, CLIS 21, Stinux, Mycelium et puis d'autres associations libristes de la région, organisent une journée foire aux installs autour de l'installation de GNU Linux dans sa dernière version Debian. C'est la distribution Buster, c'est la Debian 10. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé pour installer cette nouvelle distribution Linux sur votre ordinateur, rendez-vous samedi 5 octobre, toute la journée, de 10h à 18h, à l'AMRES. Ce sera l'occasion de rencontrer donc toutes ces personnes issues de ces différentes associations, ne serait-ce que pour échanger autour du logiciel libre, autour des libertés numériques, et en pratique, si vous le souhaitez, d'installer cette dernière version de Debian GNU Linux, la distribution Buster. Donc je vous rappelle, samedi 5 octobre, toute la journée de 10h à 18h à l'AMRES, 23 rue Gosselet à Lille.
Samedi 5 octobre, il y aura un forum sur la transition écologique et c'est organisé par les CMR, Chrétiens en monde rural, et l'EDAR, équipe diocésaine d'animation en rural. C'est de 13h à 18h à la base nautique de Saint-Laurent-Blangy, c'est juste à côté d'Arras.
Le mardi 8 octobre, chant de lutte et d'espoir, comme chaque mois, c'est la chorale au lac, le lieu autogéré du bassin minier. La chorale, ça débute à 19h, mais auparavant, si vous le souhaitez, à 18h30, une initiation à la guitare, initiation encadrée par Antoine. C'est ouvert à toutes et à tous, c'est gratuit. Mardi 8 octobre, 18h30, guitare, 19h, chorale, chant de lutte et d'espoir.
Mardi 8 octobre également, collectif Climat Béthune organise une réunion ouverte. C'est de 18h30 à 20h30 au Bruxelles Café à Béthune. À l'ordre du jour, la rédaction d'une charte en direction des élus et des candidats aux municipales qui viserait à impulser des actions concrètes sur lesquelles ils s'engageraient. Travailler aussi sur la validation et le fonctionnement de leur collectif, lui trouver un nom, des outils de travail et de communication, un calendrier, définir les actions, les missions. L'objectif étant de très vite donner corps au collectif et de le faire connaître.
Toujours le mardi 8 octobre, bienvenue chez les riches. C'est une exposition en compagnie de Monique et Michel Pinson-Charlot, Étienne Lécroard et Raphaël Perret. Alors on connaît bien Monique et Michel Pinson-Charlot qui sont spécialistes des riches et des très riches. Donc cette exposition se déroule à la Mares, 23 rue Gosselet à Lille, mardi 8 octobre à 18h30 et un temps de rencontre et de discussion suivra pour prolonger ce moment.
Jeudi 10 octobre, l'appel de la main-d'œuvre polonaise en 1919. C'est le titre d'une conférence de Jacques Kmieciak qui aura lieu au cinéma Les Étoiles de Bruay-la-Buissière.
Jeudi 10 octobre, une soirée antinucléaire au LAG de 19h à 21h30, en soutien bien sûr à la lutte à Bure contre l'enfouissement des déchets nucléaires. Alors cette soirée antinucléaire, elle va prendre corps autour de la projection d'un film documentaire, Le dossier Plogoff. C'est un film qui date de 1980 et qui relate la lutte qui a abouti à l'abandon de la centrale nucléaire de Plogoff. Une belle lutte relatée dans le cadre de ce documentaire. Rendez-vous donc au LAG jeudi 10 octobre de 19h à 21h30 autour de ce film sur la centrale nucléaire de Plogoff et avec la participation de l'association Lille Radier.
Toujours le jeudi 10 octobre, comment les riches détruisent la planète. C'est sous ce titre qu'Hervé Kempf a publié un livre sur la question en 2007, voici donc 12 ans. Relire ce livre ne peut laisser indifférent tant les énoncés sont d'actualité. L'observation du changement climatique terrestre s'impose chez les scientifiques, mais le monde politique dans sa grande majorité regarde ailleurs. Les printemps silencieux se succèdent d'année en année sans que nos dirigeants s'en émeuvent. Nos métropoles ne cessent de grossir et s'asphyxient par trop de perfusion routière. Cet emballement crée des disparités territoriales et des injustices environnementales qui deviennent insoutenables. Et si la crise sociale était liée à la crise écologique, elle-même tirée par nos premiers de cordée. Cette classe dirigeante, qui s'érige en modèle, fait obstacle au changement de cap nécessaire. Ce sont bien les riches qui détruisent la planète, c'est la thèse que développe notre auteur, journaliste et essayiste, fondateur du quotidien de l'écologie Reporter. C'est à 19h à l'espace Marx à Lille-Hellem, c'est au 6 bis rue Roger Salengro.
On continue comme chaque semaine à rappeler cette exposition Archéologie industrielle, Los Angeles 11-19, 1893-2019, mine de Lance. C'est une expo de Didier Vivien qu'on a déjà écouté et avec lequel on a eu un interview sur Micro Rebelle. Donc une expo de Didier Vivien et de Jean-Marie Minot à partir de documents d'archives, donc essentiellement photographiques. L'exposition présente un historique des fosses 11 et 19 des mines de Lance. Fondée en 1893, la fosse 11 va devenir un site stratégique en 1946 avec la construction du puits 19 qui va concentrer l'extraction des charbons gras. Il sera le dernier puits en activité dans la région lançoise. L'exposition insère l'histoire du site dans une fresque plus générale sur l'épopée du charbon dans le bassin Nord-Pas-de-Calais. Ça se passe donc à Los Angeles, à la fabrique théâtrale, sur le site du 11-19. C'est gratuit et c'est jusqu'au 11 octobre.
Vendredi 11 octobre, justement, les Polonais du Nord, un modèle d'intégration, un modèle d'intégration pour les autres communautés étrangères, avec un point d'interrogation. C'est dans le cadre du centenaire de la signature de la Convention franco-polonaise. C'est une rencontre au LAG avec Jacques Kmieciak et Pierre Frakowiak, et ça se passe à 18h30. Ce vendredi 4 octobre a eu lieu au LAG une conférence de presse pour présenter cette conférence. Et nous avons justement interrogé Jacques Kmieciak et Pierre Frakowiak. On vous passe tout de suite les quelques questions qu'on leur a posées.
Nous organisons une conférence, une rencontre-débat ce vendredi 11 octobre au LAG à 18h30. L'idée, on se pose la question de savoir si la communauté franco-polonaise érigée en modèle peut être un modèle pour les autres communautés étrangères. Donc il y aura deux intervenants, moi-même, Jacques Kmessiak et Pierre Fracoviac dans la foulée. Moi, en tant que journaliste et historien de l'immigration, l'idée, c'est de détricoter un peu le mythe de l'intégration facile des Polonais dans la société française. C'est un mythe qui est né au tournant des années 80, quand la société française s'enfonce dans la crise économique et que le débat sur l'intégration se pose dans l'espace public. Donc, à cette époque-là, à partir de cette époque-là, on met les Polonais sur un piédestal. L'idée, donc, c'est à travers toutes des recherches historiques et une présentation de la 100 ans de présence polonaise en France, de montrer que l'intégration n'a pas été si facile que ça pour la communauté polonaise.
Bonjour, moi je suis un homme de l'éducation, d'abord professionnellement, et de l'éducation populaire comme militant. J'ai beaucoup travaillé sur les mouvements d'éducation populaire comme la Ligue de l'enseignement, les Francas, etc. Et mon point de vue sur ces questions que vient d'évoquer Jacques, c'est donc plutôt un point de vue d'éducateur. Et moi, je souhaite que sur les problèmes de l'histoire de l'immigration polonaise, on dise par exemple la vérité aux gens sur les réalités et pas du tout qu'on fasse des images d'épinal. La vérité, elle nécessite une réflexion, elle nécessite un contact avec l'histoire, ça Jacques le fait, et moi je pense qu'on peut aussi avoir un point de vue plus pédagogique, plus sociologique sur ces questions-là. Qu'on n'efface pas la différence entre assimilation et intégration, qu'on n'efface pas la réalité du racisme. Dans le témoignage que j'ai donné dans mon petit livre, j'évoque que même dans les années 70-80, moi je suis de la troisième génération, j'ai encore été victime ou souffert d'un racisme anti-polac. Alors je ne dis pas que c'était toute l'opinion publique, mais je prétends qu'il ne faut pas le cacher et qu'au contraire, il faut y réfléchir. Comme éducateur, comme homme de culture, comme humaniste, il faut réfléchir à ces questions-là et faire réfléchir les gens plutôt que de se satisfaire, de leur permettre de faire la fête à chaque fois et de gommer toutes les difficultés comme si on était dans un monde de bisounours où tout le monde est content, tout le monde est heureux. Par exemple, pour prendre qu'un exemple, à Liévin, il y a eu beaucoup de manifestations. Le sous-titre, c'était « 100 ans d'amitié franco-polonaise ». Ça m'a beaucoup hérissé parce que je ne conteste pas que l'amitié, au fil du temps, s'est construite, mais je conteste qu'on puisse assimiler les 100 ans d'immigration à 100 ans d'amitié. C'est beaucoup plus complexe que ça. Et mon autre angle d'attaque, c'est que il faut aussi regarder les autres immigrations, comment ça s'est passé, comparer, échanger et voir, en comparant différentes immigrations, ce qu'il serait possible de faire dans une société pour que les problèmes que les uns et les autres, les humiliations, les problèmes divers qu'on a connus, puissent être évités pour construire une société plus humaine et plus fraternelle.
Tu évoques ton livre, est-ce que tu peux en donner les références, le titre, l'objet ?
Oui, mon petit livre, c'est un essai, ça s'appelle « Quel avenir pour la Polonia ?». La Polonia, c'est la diaspora polonaise dans notre région. Témoignage, parce qu'il y a une partie de ma vie, de petit Polac d'une cité minière de Liévin, et il y a justement une partie réflexion, approfondissement des problèmes et des différents aspects de l'immigration, qui peut être, je fais beaucoup de conférences avec des représentants d'autres immigrations, parce que c'est extrêmement intéressant de comparer les choses plutôt que de généraliser sur ce que disait Jacques, une idée complètement fausse d'une intégration ou une assimilation réussie. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Et on aurait intérêt aujourd'hui, par rapport à tous les problèmes que l'on vit, y compris notamment avec les Maghrébins, qu'on puisse réfléchir à ces questions-là de fond et voir quels sont les éléments qui pourraient nous permettre, les propositions qui pourraient nous permettre de changer les choses et de vivre dans un monde meilleur et plus fraternel. Jacques a fait un bouquin aussi, « La Pologne, j'écris ton nom, liberté ». Moi, c'est « L'avenir de la Polonia ». Et les deux livres sont édités par le même petit éditeur courageux qui s'appelle Nord Avril, qui est du Nord.
Bien, donc je rappelle l'heure de la conférence, c'est 18h30, le vendredi 11 octobre, et c'est au LAG, le lieu autogéré du bassin minier à Liévin, au 23 avenue Jean Jaurès. Actualité toujours hein, sur microrebelle.fr dans le cadre de ce micro-rebelle hebdo, actualité et revue de presse. Alors l'actualité cette semaine, elle est dominée par l'incendie de l'usine Lubrizol à Rouen. Nous allons essayer d'en tirer quelques réflexions pertinentes, on l'espère, quelques enseignements. Alors première réflexion, tout d'abord l'information concernant cet incendie a été complètement éclipsée dans les médias par le décès de Jacques Chirac. Le décès de l'ancien président de la République est évidemment une information très importante, mais reconnaissons que durant 5 jours, les médias n'ont couvert que ce décès, avec très souvent des anecdotes sans aucune importance, alors qu'une usine chimique est en feu au cœur de l'agglomération rouennaise. Deuxième réflexion, qui sont les premières victimes ? Alors ce sont tout d'abord les travailleuses et les travailleurs de l'usine, car ils travaillent au plus près de ces substances chimiques. Ce sont également les habitantes et les habitants dont les logements sont à proximité de l'usine. Et la plupart du temps, ce type d'usine Seveso est implanté dans ou près des quartiers populaires. C'est le cas de l'usine Lubrizol, qui est implantée à quelques dizaines de mètres des habitations de la ville de Petit-Quevilly, une ville populaire de la banlieue rouennaise. On a donc bien les travailleuses et travailleurs et les habitantes et habitants des quartiers populaires qui sont les premières victimes de cet incendie d'un site Seveso seuil haut. On peut d'ailleurs évoquer le reportage du journal local Paris Normandie avec ce titre qui se suffit à lui-même. Personne n'a évacué les gens du voyage du petit Quevilly installé à 300 mètres de l'incendie Lubrizol. Donc ça c'est le titre de Paris Normandie. C'est une preuve s'il en est que la maltraitance institutionnelle touche en premier lieu les travailleuses et travailleurs, les déshérités, les précaires, bref, celles et ceux à qui l'on demande toujours des efforts, à qui l'on demande toujours de se rationner. Troisième enseignement, Lubrizol, c'est la course au profit. Lubrizol appartient à Warren Buffett, milliardaire américain, qui déclarait il y a 15 ans « Ma classe, la classe des riches, mène cette guerre et elle est en train de la gagner ». Et l'usine de Lubrizol en est une belle illustration. Assurer la sécurité de l'usine, prendre en compte les contraintes écologiques et sanitaires, ça coûte cher, trop cher, au regard des profits que l'on escompte pour les actionnaires. Autre enseignement, les gouvernants, l'État, protègent les patrons. Lubrizol en est encore une nouvelle démonstration. Déjà en 2013, un nuage de tiol s'était échappé de l'usine. Ce grave problème s'était soldé par une amende ridicule de 4000 euros pour Lubrizol. Et ça continue aujourd'hui. Les pouvoirs publics protègent le propriétaire de l'usine par leur inaction, par leur mensonge. Tout ça pendant longtemps, et taisant pendant longtemps le nom des substances dissipées dans l'atmosphère en minimisant la gravité de la catastrophe. Les gouvernants, le pouvoir sont du côté des patrons. Cinquième enseignement de cet incendie catastrophique de l'usine Lubrizol, c'est que la question sociale et la question écologique sont intimement liées. Les exploités sont les premières victimes des désastres écologiques, on l'a vu. Et ce capitalisme est incompatible, du fait de sa recherche effrénée de profit, avec les exigences environnementales et climatiques. C'est ce qu'ont déjà compris certains gilets jaunes et certains manifestants et manifestantes pour le climat, qui se sont retrouvés ensemble en manif il y a 2 semaines à Paris, et que les forces policières ont tenté de disloquer. Cette convergence des luttes, on y revient une nouvelle fois, s'appuie bien sur un socle indépassable. Les questions sociales et écologiques sont les deux faces d'un même problème, le système économique capitaliste. Le dernier renseignement de ce dramatique incendie concerne bien évidemment la production, le contenu de la production. Il nous faut à nous, travailleuses, travailleurs, habitants, il nous faut interroger le contenu de l'ensemble des productions. Il nous faut interroger le système industriel. Lubrizol produit des lubrifiants pour voitures. Et c'est toute la société automobile qu'il importe d'interroger. A-t-on besoin de toutes ces voitures ? A-t-on besoin de produire en masse tous ces lubrifiants ? Et si on parlait de transport en commun ? Et si on donnait la parole aux travailleuses et travailleurs, aux habitantes et habitants ? Et si on reprenait la main sur nos vies ? Et si on maîtrisait nous-mêmes la production et si on changeait la société? On n'a pas fini de parler de la catastrophe de l'usine Lubrizol. Notre radio Micro-Rebelle vous donne la parole si vous le souhaitez. Il y a tellement d'aspects qui sont à aborder. N'hésitez pas, votre parole est libre. Alors dans la presse cette semaine, l'avenir de l'Artois évoque des suies dispersées jusqu'en Belgique et aux Pays-Bas. Autrement dit, notre région, notre territoire serait concerné par cette catastrophe de l'usine Lubrizol. Alors notamment, un extrait de cette semaine dans l'avenir de l'Artois. Oui, le nuage est passé par ici. Au niveau de l'air, c'est Atmo Hauts-de-France qui s'occupe de surveiller sa qualité. On n'arrête pas depuis vendredi, note Jacques Patrice, président de l'association. On a des capteurs qui mesurent 5 polluants réglementaires, obligatoires, que l'État nous oblige à mesurer. Mais nous ne mesurons pas les polluants qui auraient pu nous intéresser dans le cas du nuage. Fin de citation. Des polluants comme les HAP, les produits pétroliers qui ont brûlé, ou encore le carbone suie et les COV, les composants volatiles, ceux qui sont dangereux, souligne la rageoie Jacques Patrice. Tout ça, c'est parti dans l'atmosphère. Le nuage suit la côte et est redescendu dans le Nord-Pas-de-Calais. On en retrouve des traces par des pluies très locales. Cela ne veut pas dire que le nuage s'est arrêté à nos frontières. Oui, le nuage est passé par ici. Fin de citation. Autre actualité dramatique cette semaine, le suicide de Christine Renon, directrice d'école, sur son lieu de travail à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Elle a pris soin d'envoyer un texte terrible à l'inspecteur et au directeur de l'académie. Un texte signé « Christine Renon, directrice épuisée ». Les raisons de son geste sont clairement explicitées. Pression hiérarchique, multiplication des tâches, absence de moyens et de temps, avalanche de réformes comptables et bureaucratiques. L'inspection académique s'était forcée d'étouffer l'affaire et de la dépolitiser, tandis que des sources, entre guillemets, évoquaient le décès des parents de la directrice comme motif possible. Mais ces manœuvres n'iront pas très loin. Les collègues de Christine Renon, les parents d'élèves, les syndicats, lui ont rendu un hommage sans équivoque. Le syndicat SNU-IPP s'est par ailleurs déclaré, je cite, « heurté par la disproportion entre la précipitation de l'envoi d'une circulaire adressée aux écoles concernant l'hommage à rendre à Jacques Chirac et l'absence de toute communication concernant notre collègue ». Fin de citation. C'est dans ce cadre que la grève des enseignants s'est mise en place jeudi 3 octobre. Dans l'agenda de la semaine dernière, on évoquait la marche en mémoire d'Henri L'Enfant. La Voix du Nord y revient cette semaine avec ce titre « Une centaine de personnes à la marche en mémoire d'Henri L'Enfant ». Je cite La Voix du Nord. « Le 29 septembre 2018, Henri L'Enfant, 22 ans, était tué lors d'une intervention de la gendarmerie près d'un camp de gens du voyage à Fouquier-les-Lances. Hier, une centaine de personnes ont participé à une marche blanche en sa mémoire. Il s'agissait de la seconde marche après celle du 19 janvier à Béthune. Georges L'Enfant, le père d'Henri, a décidé de l'organiser en mémoire de son fils, mais aussi pour marquer son incompréhension quant au fait que le gendarme mis en examen soit sous contrôle judiciaire. « Je veux qu'il paye », a-t-il confié avant le départ marqué par les mots émus de la veuve d'Henri, qui a remercié la centaine de personnes présentes, des proches, des militants contre les violences policières ou encore des personnes ayant perdu un membre de leur famille dans des circonstances similaires. Pause musicale.
Pour la pause musicale aujourd'hui, on va diffuser un groupe qu'on a déjà passé il y a quelques semaines, un groupe espagnol qui s'appelle Knowledge, extrait d'un album qui s'appelle lui Granada Doaba, c'est Bohemia al Andalus. We'll be right back. Vous êtes toujours à l'écoute de Micro Rebelle Hebdo, magazine d'actualité des luttes sociales dans le bassin minier et au-delà. Émission que vous pouvez écouter sur microrebelle.fr, mais également rediffusée sur Radio PFM à Arras et Radio Plus à Douvrin. Pour rester dans l'actualité, on va tout de suite vous passer un reportage sur un sujet comme on les aime, c'est-à-dire un petit peu politique et économique. Nous étions ce vendredi 4 octobre au tribunal d'Arras pour une affaire au sujet des compteurs Linky. C'est une octogénaire qui a porté plainte contre Enedis. L'audience a rassemblé quelques dizaines de personnes, soutien des collectifs ACAD et du collectif CalGEA.
Ils sont certainement complices, même à EDF et Enedis, ils sont certainement complices.
Cette histoire, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer. Gilberte Morel, 85 ans, habitante du quartier Pierre-Bol à Arras, a attaqué en justice Enedis pour surfacturation abusive de sa consommation d'électricité. Le feuilleton a débuté en février 2017 à la pose des nouveaux compteurs communicants Linky. Résultat, sa facture est passée de 100 euros par an à 500 euros, somme qu'elle a refusé de payer dans son intégralité. Après relance et procédure d'huissier, EDF a fini par couper l'électricité à Madame Morel pendant 3 mois, pour finalement la rétablir à l'approche de la trêve hivernale. Ce vendredi 4 octobre avait lieu l'audience au tribunal d'Arras. Les collectifs ACAD, anti-compteurs communicants Artois-Douaisy et CalGEA, collectif anti-Linky Gaspard et O. Avionné, étaient venus soutenir Madame Morel que nous avons rencontrée avec son avocat, Maître Lonis.
J'interviens pour Madame Morel devant le tribunal d'instance pour contester une facture d'électricité importante, environ 450 euros, dans la mesure où la facture correspond absolument pas à ses consommations habituelles. Donc le problème du dossier, c'était que la surconsommation a été constatée au moment de la pose des nouveaux compteurs communicants Linky. Et donc tout le débat était effectivement de savoir si le compteur présentait un dysfonctionnement ou un défaut de réglage qui permettrait d'annuler effectivement la facture de Madame Morel.
Alors le représentant d'Enedis qui était là aujourd'hui, lui ne reconnaît pas justement ce dysfonctionnement.
Non, il ne reconnaît pas ce dysfonctionnement. Donc il rappelle que la charge de la preuve nous incombe, ce qui est le droit commun de la preuve. Simplement, nous estimons apporter la preuve puisque les consommations avant la pose du compteur Linky, elles étaient d'environ 0,2-0,3 kWh par jour. C'est une consommation relativement faible dans la mesure où Madame Morel est très économe. Et à la suite de la pose du compteur Linky, on a observé une augmentation très importante des consommations, de l'ordre de 8 à 10 kWh par jour. Quand Madame Morel s'est plainte, Enedis est venu procéder à un contrôle visuel du compteur, a certainement également procédé à des réglages à distance, puisque c'est un compteur communicant électronique, tout se fait à distance. Et à la suite de cette venue en avril 2018, on découvre que les consommations retombent au même niveau que celles d'avant la pose du compteur Linky. Donc on a des éléments qui montrent effectivement à tout le moins un défaut de réglage du compteur au moment de sa pose.
Vous pensez qu'Enedis est de mauvaise foi dans cette affaire ?
Enedis se retranche en fait derrière son fournisseur en disant « moi je ne touche pas au compteur Linky, quand je l'ai, il sort de l'usine, donc s'il y a un défaut c'est pas nous, c'est l'usine ». Là où il reste particulièrement taisant, c'est sur les démarches, les formalités qu'ils ont pu faire au moment du contrôle en avril 2018. Dans la mesure où ça se fait à distance, nous on n'a aucune information là-dessus. Ils nous disent simplement on est venu, on a vu, ça fonctionne, donc il n'y a pas de problème. Mais en réalité, à distance, ils peuvent commander le compteur, réduire, augmenter la consommation, la puissance. Et effectivement, je pense que c'est là-dessus que c'est grâce à ça que Enedis a pu régulariser la situation, mais elle ne reconnaît pas, en tous les cas, que effectivement, il y aurait eu un problème entre février 2017 et avril 2018.
Alors, ils ont trouvé que mon compteur avant, il ne marchait pas. J'ai dit pendant 10 ans, l'EDF ne s'est pas rendu compte. Parce qu'avant, on avait un employé de l'EDF qui venait contrôler. hein, qui venaient relever. Ils m'ont jamais dit votre compteur il marche pas, c'est pas possible.
L'ancien compteur fonctionnait puisque les consommations avant correspondent à celles d'aujourd'hui.
Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui auprès d'Enedis et auprès du tribunal?
Ce qu'on a demandé au tribunal, c'est d'annuler la facture de résiliation du contrat d'abonnement EDF, qui représente 470 € environ. Et dans la mesure où cette surfacturation qui a abouti à une coupure de courant et donc au fait que madame s'est retrouvée 3 mois sans électricité, donc sans frigo, sans éclairage, à une période où il faisait en plus très chaud, hein, c'était en été. On a demandé une indemnisation à hauteur de 2 000 € pour réparer l'ensemble des préjudices moraux et matériels de madame Morel.
Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de procès du même genre en France? Est-ce que vous pensez que ça peut faire jurisprudence, ce genre d'affaires?
Je n'ai pas connaissance d'énormément d'affaires dans le ressort du tribunal où je suis inscrit, Béthune. Mais on voit effectivement au travers des recueils de jurisprudence, des décisions hein, sur des clients qui se plaignent de surconsommation relevée par des compteurs. Je dirais que c'est un contentieux récurrent avec toujours le même problème qui est celui de la preuve du bon fonctionnement, mauvais fonctionnement du compteur.
Vous êtes optimiste sur la délibération?
Le jugement doit être rendu le 22 novembre. Je pense qu'on a les éléments pour démontrer effectivement qu'il y a eu quelque chose d'anormal qui s'est passé au moment de la pose du compteur Linky. Les consommations d'avant la pose du compteur Linky correspondent à celles d'aujourd'hui, après intervention de Enedis. Manifestement, il y a quelque chose. Et Madame Morel, qui a 85-86 ans, qui n'a pas changé ses habitudes de vie, qui vit seule, n'a pas, comme le prétend Enedis, consommé de manière importante après la pose du compteur, pour ensuite, après s'être rendu compte que ça coûtait cher, revenir à une consommation très faible.
Alors Madame Morel, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être David contre Goliath?
Comme j'ai beaucoup de personnes qui croient en moi, ça me fait plaisir. Et puis bon, moi, j'espère que ça va s'arranger quand même, hein, parce qu'il y a encore des personnes honnêtes quand même. Hein.
Qu'est-ce qui vous a poussé à porter plainte? Parce que c'est vrai que c'est pas évident, c'est un peu lourd. Et puis,
On en a parlé autour de nous et puis un jour, ma fille a rencontré Monsieur Rose du collectif Anti-Linky. Elle lui en a parlé, elle est venue me rencontrer. Et puis bon, après avoir écrit à EDF, Enedis, tout ça, j'ai contacté aussi Point Droit, défenseur des droits, là. Et puis après, ben, il dit, bon, rien à faire, Monsieur Rose. Il dit, on va prendre un avocat, c'est ce qu'on a le mieux à faire.
Ce qui l'a aussi poussé à porter plainte, c'est le fait qu'on ne la croit pas, qu'on lui dise qu'elle a été malhonnête, qu'elle a trafiqué son compteur. Et ça, elle n'a pas supporté. Elle a payé ses impôts toute sa vie. Elle n'a jamais dû un centime à personne. Donc, elle n'a pas accepté qu'on la traite presque de voleuse. Ça a été ce qui a été déterminant. La façon dont elle a été reçue au téléphone par EDF.
C'était même avant la coupure d'électricité?
Oui, bien avant la coupure d'électricité. Dès qu'on a commencé à négocier, à dire bah, est-ce qu'il y a eu une erreur ou pas, et que bah, on lui a dit non, c'est la consommation que vous aviez avant, c'est pas possible, vous trafiquez votre compteur.
En début de reportage, vous avez pu entendre l'avocat de Madame Morel, Maître Lonis, et ici sa fille, Muriel Morel, au sujet de l'argumentaire du représentant d'Enedis, qui botte en touche l'argument d'un dysfonctionnement et pour qui l'ancien compteur et non le nouveau serait en cause. En France, de nombreux collectifs se dressent contre la pose imposée des Linky et Gaspard, avec pour motif des cas de harcèlement, de maladie, de facturation abusive, mais aussi la collecte des données des consommateurs et consommatrices. Pour faire le point, nous avons rencontré Pascal Dieu, président de l'association ACAD, anti-compteur communicant Artois-Douaisy.
J'ai pris la présidence d'un collectif qui s'est créé sur Angres d'abord, puis après on s'est élargi avec Pierre Rose qui habite à Quiry-la-Motte, moi j'habite à Ablain-Saint-Nazaire, surtout l'Artois et le Douaisy. Et on lutte contre tous les compteurs communicants, Linky, Gaspard, compteur d'eau, et maintenant contre la 5G.
Est-ce qu'on peut faire une liste des arguments contre ces compteurs communicants ?
Alors d'abord, le respect de... Normalement, on n'a pas le droit d'imposer un objet connecté chez quelqu'un qui n'en veut pas. Déjà, pour moi, c'est le premier principe. Bon, ensuite, les ondes électromagnétiques. Il y a des gens qui sont électro-hypersensibles, qui ne supportent pas les ondes dans la maison. Et comme le Linky avec le courant porteur en ligne, il diffuse des ondes supplémentaires dans tout le réseau électrique de la maison. Des gens qui ne supportent pas, et puis c'est une question de principe. Comme moi, chez moi, j'ai refusé... Enfin, je ne branche pas la Wi-Fi, on n'a pas de micro-ondes. Donc on essaie d'avoir le moins d'ondes possible. Ensuite, beaucoup de problèmes de surfacturation. Dr Linky est tellement sensible que si on dépasse un peu la puissance autorisée, ils vont nous changer de tranche de paiement, on va payer plus. Des incendies, il y en a eu plusieurs centaines dans toute la France. Beaucoup de gens qui ont des problèmes techniques, des coupures de courant, des appareils qui s'allument tout seuls. Enfin, on a plein de choses à reprocher. Bien sûr, tout le monde n'a pas des problèmes, mais déjà, ce qu'on voudrait, c'est la liberté de choix, quoi. On nous dit que c'est obligatoire alors que c'est pas vrai. C'est une directive européenne qui demande aux installateurs de les mettre, mais les utilisateurs ne sont pas obligés de les accepter. Comme moi, ça fait plus de 2 ans que j'ai refusé et je ne suis pas en prison.
Vous, dans votre collectif et dans cette localité, Arras de Artois-Douaisis, il y a beaucoup de...
techniques par courrier, des gens qui ont un compteur à l'extérieur, qui ont été absents, ils avaient refusé par courrier, on leur a mis quand même. Mais après, trouver des gens qui sont vraiment décidés à déposer plainte, c'est pas facile, mais on essaye de recueillir le plus possible. Puis on organise des réunions d'information.
Ces réunions d'information fonctionnent bien. On a vu des salles bondées. Maintenant, mener une bataille juridique contre EDF, c'est une autre paire de manches.
Ah oui, ben pour l'instant, on est plusieurs centaines de collectifs dans toute la France. On essaie de trouver les arguments judiciaires appropriés parce qu'il y a plusieurs arrêtés qui ont été retoqués soit par les préfets, par le tribunal administratif, tout ça. Donc, mais on travaille vraiment dans toute la France pour trouver la faille, on va dire. Mais c'est vrai que c'est pas évident au niveau judiciaire, surtout qu'on n'est pas tous spécialistes en plus. Hein.
Est-ce que c'est possible de revenir si quelqu'un estime avoir été floué par Enedis? Il peut exiger quelque chose?
On a quelques cas en France, des gens qui ont déclaré une maladie, soit de la personne, soit de leur enfant par exemple, et ils ont remis un ancien compteur, ça existe. Même par ici, un copain de notre secrétaire Pierre, il a réussi à faire remettre un ancien compteur, ça existe encore. Les anciens compteurs numériques par exemple, ils ne sont pas connectés, ils sont numériques mais pas connectés, quoi. Mais c'est vrai que ça existe, il n'y a pas beaucoup de cas mais ça existe.
Et donc s'ils remettent les anciens compteurs, ça veut dire qu'ils reconnaissent qu'il y a des dysfonctionnements dans leur compteur Linky?
Le reconnaître officiellement, moi je pense que c'est des cas particuliers, ils osent le faire, mais ils ne vont pas encore déclarer ça de façon générale. Hein.
Vous avez pu entendre dans ce reportage successivement Maître Lonis et Mesdames Morel, mère et fille, au sujet de l'affaire qui oppose Madame Morel à Enedis pour surfacturation abusive suite à la pose d'un compteur Linky et aussi pour obtenir des dédommagements suite à une coupure de courant de 3 mois. Enfin, vous avez pu entendre à l'instant Pascal Dieu, président de l'association ACAD. Plus d'informations sur les compteurs communicants sur le site d'ACAD avec 2 C pour Anti-compteurs communicants Artois-Douaisis. Pour terminer le dernier quart de ce micro-rebelle hebdo, un autre reportage, moins d'actualité mais tout de même un peu politique. Ça parle d'une éloge de fesses. Éloge de fesses, c'est une visite guidée de la Galerie du Temps du Louvre-Lens qui propose de poser un autre regard sur les œuvres d'art, sur notre propre cul et sur le fondement des sociétés phallocrates. Nous y avons assisté et avons rencontré Bernadette Gruson, créatrice et performeuse de ce solo.
En fait, si le cul prend autant de place, c'est parce qu'on ne parle pas assez des fesses.
Le 21 et 22 septembre au Louvre-Lens, lors de la journée du patrimoine, nous avons pris l'arrière-train de l'art. Bernadette Gruson y jouait Éloge de fesses, performance culottée qui nous invite, grâce à une visite guidée de la Galerie du Temps, à découvrir la fesse cachée de l'histoire de l'art. Un solo de rôle et philosophique qui change notre regard sur les fesses et grâce auquel se révèle enfin le derrière des choses.
Simone de Beauvoir dit « Les fesses ne sont la promesse de rien d'autre que d'elles-mêmes ». Je le répète.
À la suite de cette visite où les fesses nous font bondir hors cadre, nous avons rencontré Bernadette Gruson pour causer de l'individualisme du cul, de nos fissures intimes et d'égalité de fondement entre hommes et femmes.
Est-ce que tu peux me dire d'où t'es venue l'idée de vouloir faire une éloge des fesses ?
Alors c'est venu d'un spectacle sur lequel je travaillais en 2014 qui s'appelait Fesses, pour lequel j'ai eu une bourse de découverte du Centre National du Livre pour l'écriture du texte. Et bien Virginie Labroche, la directrice de la scène et des événements spectacles vivants au Louvre, a entendu parler de ce projet et du coup m'a proposé de faire une performance dans cette galerie du temps autour des fesses. Du coup, c'est grâce à cette proposition inédite et performative, donc en 2014, que j'ai fait un premier parcours éloge de fesses ici à Lens. Et puis ensuite, éloge de fesses est devenu un projet à part entière de la compagnie Zaoum, et j'ai pu être invitée dans d'autres musées et même en fait dans des lieux qui ne sont pas des musées. Par exemple, j'ai eu le plaisir de faire l'éloge de fesses du Chanel, la scène nationale de Calais, qui est donc sur un site où il y avait les anciens abattoirs de Calais. Donc aussi pas mal de choses à raconter, comme quoi on peut vraiment trouver des fesses partout.
Et je vous invite à venir par ici pour découvrir la spécificité des fesses que seul et uniquement le Louvre-Lens nous permet de découvrir. Grâce à la ligne du temps de cette galerie, nous voyons que les fesses sont toujours tournées vers l'avenir. L'avenir s'invente par les fesses.
On te sollicite pour ton regard expert parce que tu es une professionnelle de la révélation de fesses.
Oui, bah en fait, ce qui me plaisait énormément dans le sujet fesses, c'est justement en fait cette différence entre le cul singulier dans son orthographe qui, je trouve, en fait, raconte quelque chose de cette société capitaliste, individualiste, où on veut être le plus fort ou la plus forte, le premier ou la première, avec parfois, en fait, cet écrasement des autres et cette volonté de ne pas faire corps, de ne pas être dans cette unité, dans cette solidarité, alors que les fesses, elles, pour moi, sont vraiment le symbole de la solidarité, puisqu'en fait elles sont l'une à côté de l'autre. Il n'y en a jamais une qui prend la place de l'autre ou une qui éjecte l'autre de sa place. Et la fissure, en fait, c'est-à-dire que le cul, finalement, est une vision de l'esprit. Le cul n'existe pas, en fait, puisque en fait on est fissuré, notre cul est fissuré. Et le fait qu'il soit fissuré donne ces deux fesses qui, pour moi, racontent vraiment quelque chose de complètement philosophique sur l'être humain, dans sa dualité, dans ses paradoxes, dans sa fissure qu'on cache parfois, parce qu'on n'assume pas toujours en fait nos défauts ou nos faiblesses. C'est aussi pour ça que j'aime insister sur les endroits de phallocratisme, parce que c'est en fait pour moi justement le symbole en fait de la domination et d'une forme un peu maladive en fait, de la peur de l'autre.
Par contre, le cul, avec son singulier orthographique, aimerait bien être lui le seul, l'unique, alors que les fesses, elles s'en fichent. Elles s'en fichent complètement. Il n'y en a pas une qui domine l'autre, une qui évince l'autre, une qui abandonne l'autre, une qui rejette l'autre. Non, non, en fait, elles sont unies, malgré la fissure. Elles sont fissurées, mais elles assument leur fissure. Elles sont solidaires, elles ne nient pas la différence, elles l'incarnent. Les fesses sont symboles de paix.
Alors que le cul a une connotation éminemment sexuelles, voire pornographiques. C'est pas le cas des fesses.
Ben, je trouve que le mot fesses est à la fois coquin, parce que ça, c'est coquin. Fesses, dans fesses, il y a aussi fessées, par exemple. Donc, on ne va pas se mentir que c'est quand même, il y a quelque chose quand même d'érotique. Mais c'est pas pornographique. Le cul, il y a quelque chose de la consommation. Hein. Je parlais du capitalisme ou de l'individualisme. Ça va aussi avec ce côté consumériste, en fait. Un plan cul, c'est pas un plan fesses. Ça n'a rien à voir. Un plan cul, c'est une consommation d'un corps. Sans chercher à rentrer dedans. C'est-à-dire, quand je dis rentrer dedans, c'est physiquement, on va le prendre, ce corps, mais on ne va pas faire l'effort de rentrer dans la relation, en fait. C'est je consomme et je jette. Voilà. Et du coup, pour moi, c'était vraiment hyper intéressant de parler de tous ces sujets-là, mais en me basant sur les fesses et sur le cul, sur la différence des fesses et du cul, des fesses et des phallus. Et en fait, c'est une manière de parler de notre société, des difficultés qu'on rencontre notamment dans les relations hommes-femmes, mais avec un support drôle, un peu poil à gratter.
Pas de fesses, c'est comme une voile sans vent. En fait, c'est comme si elles étaient immobiles. Elle ne bouge pas, elle reste au port. Ces deux statuettes sont des statuettes de la fécondité. En fait, je me suis dit que finalement, c'était un petit peu ce qu'on attendait d'une femme. C'est-à-dire qu'elle soit féconde, mais qu'elle reste au port, qu'elle ne bouge pas.
Puis c'est aussi assez politique comme visite. C'est vrai que tu essaies de bousculer les regards qu'on porte justement sur les œuvres d'art, bousculer la manière dont on peut visiter une galerie dans un musée, mais c'est quand même aussi une performance féministe.
Je bouscule, et notamment par exemple d'inviter les gens à se mettre pieds nus, c'est vraiment pour moi comme une sorte de transgression initiale. On commence justement par enlever les chaussures et se mettre pieds nus, parce qu'on ne peut pas se mettre à poil. C'est dommage, j'aimerais bien qu'un jour on puisse faire une visite entièrement à poil, ce serait super. Mais là, du coup, qu'il y ait au moins une partie de notre corps qui est nue et qui est en contact avec le sol. Donc c'est une transgression. Là, d'ailleurs, en fait, dans cette visite, un gardien est venu voir si on ne pouvait pas remettre nos chaussures, et quelqu'un de l'équipe a pu dire « Non, mais c'est sous contrôle, tout va bien, en fait, c'est voulu, il n'y a pas de problème. » Donc comme quoi, en fait, c'est une vraie transgression. Après, sur la portée politique, oui, en fait, forcément, c'est politique. Parce que même encore aujourd'hui, les questions de nudité et les questions de rapport au corps, du corps de la femme et du corps de l'homme, en fait, sont hautement politiques. Dans les musées aujourd'hui, et ce serait intéressant d'ailleurs de faire le rapport dans cette galerie qui est à mon avis de 0%, c'est-à-dire 85%, voire ici, oui je pense que ça doit être à peu près 85% dans cette galerie ou dans les autres musées, 85% des nus sont des nus féminins, et seulement 5% des artistes sont des artistes femmes qui sont exposés dans les musées. Donc on voit bien qu'on aime le corps nu des femmes, mais on aime moins laisser la liberté aux femmes d'être dans une émancipation et être dans une liberté.
À la suite de la visite, nous avons demandé aux spectatrices et spectateurs jusqu'où ils ont suivi les courbures de l'imagination de Bernadette Gruson lors de sa performance Éloge de fesses.
Je trouve que c'est une visite de musée, pas comme les autres. Parfois, on traîne les pieds dans les musées, et ici, on dansait presque. Voilà.
Je veux dire qu'ici, on ne traînait pas les pieds, on traînait les fesses. Hein, et on a appris énormément sur la vision des fesses et sur l'importance des fesses. Donc maintenant, on va plus se déplacer de la même façon.
Ni hein. De les regarder de la même façon.
Ça, éventuellement, oui, éventuellement.
Voilà. Vous pensiez que c'était si important les fesses, ne serait-ce qu'au sens politique? Elle a aussi insisté là-dessus?
Non, elle nous fait découvrir une facette des fesses, que je ne vais pas dire que nous ignorions, mais auquel nous n'avons pas réellement pensé, ni gratté au-delà de la simple vision.
Vous pensiez qu'elles étaient partout à ce point-là?
Trouver des fesses partout. Effectivement, c'est facile. Donc on peut trouver des fesses partout. Avec le petit viseur, sans le petit viseur, je trouve ça peut-être un peu facile. Mais De toute façon, le parcours était très intéressant et ludique. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez retenu ?
J'ai retenu le pas, ou le fait de se déplacer de site en site, le fait de se déplacer en se balançant, en se déhanchant et tout, en faisant du earthing. Donc, fait que nous voyons les choses et que nous ressentons les choses d'une façon un peu différente. Puisque nous avions vu l'exposition avant ça de visu, maintenant nous l'avons vu avec les pieds et les oreilles.
J'ai trouvé que c'était fort original, les commentaires étaient très bien faits, en plus pas mal de jeux de mots, bon il fallait suivre du début jusqu'à la fin.
Est-ce que vous le saviez que les fesses étaient partout ?
Non, j'avais jamais fait attention. Sincèrement, il aura fallu que je vienne ici pour voir un peu, je vais regarder plus profondément les tableaux, un peu tout, par la suite je crois, hein, parce que c'est vrai, on s'imagine pas tout ça. Mais
est-ce que ça a changé votre regard sur les fesses ?
Je sais pas, il faudrait que je réfléchisse un petit peu. C'est vrai qu'on prête pas toujours bien attention, mais c'est vrai que par la suite, mon regard pourrait changer. Le discours était très féministe, c'est dans l'air du temps, puis c'est normal, l'égalité entre hommes et femmes, j'y ai toujours cru, c'est un long chemin, mais bon, il faut que ça se fasse. De toute manière, je vois pas pourquoi l'homme serait supérieur à la femme, donc c'est pour ça, dans le commentaire, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de bonnes choses.
Et si je vous demande là, à brûle pour point, ce qui vous a marqué, ce que vous avez retenu, vous diriez quoi ?
Ce que j'ai retenu, c'est que il faut faire très attention aux mots, ce qu'on dit, ce qu'on regarde, et on ne voit pas toujours les choses comme on devrait peut-être les voir.
Éloge de fesses, un solo de Bernadette Gruson de la compagnie Zaoum. Nous y avons assisté lors des Journées du Patrimoine le 21 septembre dernier, dans la Galerie du Temps du Louvre-Lens.
Holly came from Miami, FLA, hitchhiked away across USA.
Il est temps de conclure ce micro-rebelle hebdo. Micro-rebelle hebdo que vous pouvez écouter bien évidemment sur microrebelle.fr, émission également rediffusée sur Radio Plus à Douvrin et Radio PFM à Arras. On se quitte en musique à la semaine prochaine et on se quitte avec Que Viva la Salsa. Pour le titre, c'est j'ai un très mauvais accent espagnol en plus, donc Ran y su son latino. Voilà, j'aurais essayé au moins.
Que viva la rumba, la pachanga y el son. Que viva toda la salsa de ayer y de hoy.